qui a agressé en pleine classe vendredi à Étampes une de ses enseignantes en lui portant 3 coups de couteau a été interpellée cette nuit. L'adolescent avait pris la fuite après son acte. Les jours de l'enseignante ne sont pas en danger. Le temps d'aujourd'hui, très froid partout, mais le soleil sera au rendez-vous, sauf en fin de journée sur la moitié ouest où les nuages partis de Bretagne couvriront les régions du Pas-de-Calais et de la Vendée. C'est la fin de cette édition. Prochaines informations sur France Culture à 9h. Et en attendant, je vous laisse en compagnie de Sylvie Andrieux pour Vivre sa ville. Bonjour Sylvie Andreu, Marie-Laure Ciboulet. Ce matin, une gouvernance pour les stations de montagne. Il y a un siècle, le ski n'existait pas, sauf pour quelques privilégiés sur les pentes de Megève ou de Chamonix. Les stations pionnières sont apparues il y a 60 ans, suivies des stations bars, des stations villages plus pittoresques et depuis peu d'une prolifération de résidences à destination d'une riche, voire très riche, clientèle étrangère. Et pourtant, la crise des sports d'hiver est venue et avec la prise de conscience de certains pour une autre politique de l'aménagement, mettant en avant la question du logement des jeunes ménages, de la desserte et des transports, de la qualité des eaux et du cadre de vie architectural. Cela s'appelle une autre gouvernance pour les villes de montagne qui commence à s'appliquer dans une dizaine de stations volontaires. Ce matin, Vivre sa ville en Haute-Savoie, Auger et aux Contamines avec les premières neiges. Valérie Aureloup, le pays de Contamines, c'est au fond de la vallée, c'est ça? Derrière vous, il n'y a plus rien?
Oui, effectivement, on est en limite de frontière départementale d'une part, puisqu'on a la Savoie sur le côté ouest, et puis en limite nationale, puisqu'on a tout de suite l'Italie sur le côté ouest. Donc c'est vraiment un fond de vallée très enclavé.
Et qu'est-ce que ça crée comme particularisme que d'être justement au bout du monde, quoi?
Je crois que la principale conséquence, c'est qu'on n'a pas un flux de passage. On a des gens viennent aux Contamines pour les Contamines, mais ne passent pas par hasard à l'occasion de franchissement d'un col ou autre. Donc c'est vraiment un choix de destination particulier. Donc ça donne une atmosphère un petit peu confinée au village. Un petit peu fermé, comme un cocon.
Entre soi, c'est ça, non?
Un peu entre soi, c'est vrai. Et puis, ça veut dire aussi qu'on n'a pas de flux traversant à gérer. C'est plus facile, quoi.
On gère
qu'une population, soit de visiteurs qui a fait le choix d'être là et de rester là, soit de gens qui habitent là en permanence. C'est un petit peu différent par rapport à d'autres communes qui ont un flux traversant important. Et en termes de voirie, en termes d'ambiance, c'est pas tout à fait la même chose.
Est-ce que vous savez de quelle architecture vous avez envie pour les Contamines montjoie?
L'urbanisme aux Contamines a pris un essor considérable à partir du début des années 80 jusqu'en 95-2000. On a fait des immeubles assez jolis, mais des blocs importants, notamment toute une zone de 5000 lits vers les remontées mécaniques, qui est une zone très importante avec des gros immeubles. Et puis petit à petit, les gens en sont revenus, quoi, en disant le style des Contamines, c'est pas ça, il faut pas faire ça dans les hameaux, il faut faire de la petite structure, hein, il faut faire des petits collectifs, soit du chalet, c'est plus l'image des Contamines. C'est sûr que ça mange plus d'espace, hein, ça mange plus d'espace. Mais bon, j'ai envie de dire que la problématique des Contamines, c'est pas ça aujourd'hui. On a 15 000 lits. Et en période de forte fréquentation, on atteint 8500 personnes sur le territoire. Donc notre difficulté, elle est plutôt dans le remplissage que dans la construction de nouveaux lits. Hein. C'est plutôt ça notre challenge, c'est-à-dire de bien remplir les lits que l'on a, de les remettre dans le circuit commercial, d'en faire des lits chauds plutôt que des lits de résidence secondaire. C'est plutôt ça que d'avoir 5000 lits supplémentaires.
Madame le maire, au Contamines, on parle beaucoup de gouvernance, qui est un vocable récent, qui n'existait pas dans un vieux Larousse que j'ai chez moi. Alors que recouvre ce concept de gouvernance?
Alors, si je ne me trompe pas, c'est un terme un peu anglo-saxon. L'origine de ce terme-là, c'est ça. Alors, je ne vais pas m'attarder sur la définition anglo-saxonne, mais pour nous ici, dans les stations de montagne, on emploie ce terme de manière assez récente pour signifier un petit peu le pilotage de la fonction entreprise d'une station. C'est-à-dire qu'une station a cette particularité d'être finalement... je ne parle pas de village cette fois-ci, je ne parle pas de commune, je parle vraiment de station, d'être finalement un ensemble économique qui a pour vocation de produire des activités économiques, de faire travailler des gens, de produire du chiffre d'affaires, de produire de la richesse. Et sa particularité par rapport à une autre entreprise, c'est d'être composée de multiples petits acteurs. Alors il y a des gros acteurs comme les remontées mécaniques par exemple, les écoles de ski, les bureaux des guides, mais il y a aussi plein de petits acteurs qui sont les commerçants, les hébergeurs, les hôteliers et plusieurs centaines d'individus comme ça. Et pour autant, il faut que tout le monde aille dans la même direction, et une stratégie de développement, une stratégie d'image, une stratégie marketing, et alors que chacun a son individualité finalement.
Et ça, ce sont des rapports à inventer, c'est ça?
Des rapports à inventer, c'est une, comment dire, des rapports à inventer probablement, et puis un pilotage aussi à inventer, parce que les gens, au terme de la loi, effectivement, les fonctions touristiques appartiennent au maire. Pour autant, le maire n'est pas toujours le plus compétent et le plus proche des clients pour inventer cette stratégie. Donc il a besoin d'une remontée d'informations très très forte de la part des socioprofessionnels. Donc en quelque sorte, il organise les choses, il pilote, il met en musique, mais en même temps, le fond des choses doit venir du client lui-même qui remonte via les socioprofessionnels et qui permet d'élaborer une stratégie. Donc c'est un pilotage très très particulier. J'aime bien à dire quand j'explique ça aux gens que l'Office du tourisme, donc piloté par effectivement la commune et les socioprofessionnels, doit être le service marketing et développement de cette entreprise de 15 000 lits que sont les Contamines de Montmongeois. Ça donne une image un petit peu de la fonction qu'on doit avoir nous au niveau gouvernance.
Vous êtes le directeur de l'Office de tourisme des Contamines Montjoie. Que faut-il entendre par gouvernance que l'on tente de mettre en application aux Contamines depuis quelque temps?
La sphère privée avance, s'organise, aménage en fonction de critères qui sont ses propres critères, qui sont des critères bien souvent individuels, et met en place des stratégies de développement, des stratégies pour l'avenir, prennent en compte individuellement les critères de l'entreprise. La commune, elle, par les investissements qu'elle fait, par les aménagements qu'elle met en œuvre, applique aussi une stratégie. Et aujourd'hui, l'un des problèmes, c'est que ces différentes stratégies, ces différents intérêts, sont pas forcément convergents. Et la gouvernance, c'est le fait de mettre tout le monde autour de la table et de définir une stratégie commune qui permettra d'organiser la station de façon cohérente, de fournir un service cohérent aux gens qu'on reçoit, à nos estivants, à nos hivernants. Et ça nécessite une réflexion.
Sans léser aucune des parties, si possible.
Eh bien, il faut que les gens soient autour de la table pour que des consensus se créent. Et toute la difficulté, c'est d'avoir le lieu où ce partage public-privé va se faire, cette concertation public-privé va se faire pour définir une stratégie. Et que ce lieu doit d'abord exister, et ensuite, il faut qu'on puisse mettre en application les idées qui en sortent. Il ne s'agit pas juste de réfléchir, de sortir des concepts et de les laisser dans le fond d'un placard parce qu'on n'a pas les moyens de les mettre en œuvre. Et donc, l'un des enjeux de la gouvernance est justement d'écrire la stratégie et de la mettre en œuvre.
Et ça démarre depuis quand, ça, gouvernance, ici?
Alors, au Contamines Montjoie, cette notion a été prise en compte par la dernière municipalité qui a souhaité se doter d'un outil de gouvernance et qui travaille depuis maintenant 4 ans sur ce sujet.
Olivier Béguin, vous êtes le directeur de l'école de ski français.
Oui.
Quel ski on pratique aujourd'hui? Il a beaucoup évolué?
Le ski a beaucoup évolué, surtout on a suivi un peu l'évolution du matériel, ce qui fait qu'en finalité il est beaucoup plus facile d'apprendre, avec une marge de sécurité qui est beaucoup plus élevée, puisque ça a beaucoup progressé. Un débutant, il y a 20 ans, mettait, il lui fallait 2 semaines de ski pour arriver à commencer à évoluer un peu partout. Maintenant, on a des gens qui commencent le lundi et qui, à la fin de la semaine, vont pratiquement sur tout le domaine.
Ce sont des skieurs.
Sont skieurs déjà un petit peu.
Ouais. Alors, le moniteur apprend à skier, mais il apprend aussi à aimer la montagne et l'environnement dans lequel il évolue.
Je crois qu'il y a 2 aspects. Il y a l'aspect technique, est-ce qu'on peut apporter aux gens. Je crois que les gens qui sont en vacances chez nous attendent, d'une part, bien sûr, de faire des progrès, d'avoir des bases techniques, mais je crois que ce qu'ils aiment surtout, c'est rencontrer des gens, quoi. Tous les gens, tous les socioprofessionnels du village sont en grande majorité, on va dire à 90% des gens originaires d'ici, quoi. Ou qui vivent à l'année ici.
C'est important, ça.
Je pense que pour l'ambiance, c'est important par rapport à ce que les clients attendent. Ça me paraît important parce que c'est des gens qui sont là tout le temps, qui savent exactement tout ce qui se passe, qui ont une grosse connaissance du milieu. C'est un peu différent, c'est pas pour dénigrer les grandes stations, mais c'est un peu différent dans les grandes stations où il y a une population locale moins importante. Et au moment des vacances, par exemple, il y a un énorme apport de moniteurs de l'extérieur, des gens, par exemple, qui ont des activités dans le sud de la France pendant l'été, qui viennent faire uniquement la saison.
Qu'est-ce que vous pensez de cette gouvernance que l'on tente de mettre en place dans certaines stations de sport d'hiver?
Je crois que c'est indispensable. On ne peut plus... une station, c'est un ensemble d'acteurs, de socioprofessionnels. Et si chacun tire de son côté, le résultat final n'est pas bon, quoi. Donc il faut, même si les intérêts ne sont pas les mêmes, il faut qu'il y ait une certaine cohésion au niveau de la communication et au niveau de ce qu'on fait, de ce qu'on met en place. L'intérêt, c'est d'inverser un petit peu le sens de la réflexion et de dire qu'attend le client, et non pas qu'attendons-nous chacun de notre côté en matière de commercial ou de technique, quoi.
Et c'est une prise de conscience récente?
Je crois que les démarches sont un petit peu inversées. C'est vrai que peut-être au début des sports d'hiver, on peut dire peut-être que chacun essayait de ramener les bénéfices, entre guillemets, à son propre système. Mais maintenant, on s'est aperçu que c'était plus possible. Hein. Donc, tout le monde va dans l'intérêt général, quoi.
Et qu'est-ce qui n'est plus possible?
Il n'est plus possible de considérer, sur un plan politique local, que, par exemple, les clients ne viennent dans une station que parce qu'il y a une école de ski, ou inversement, parce qu'il y a les remontées mécaniques. Les clients viennent dans des stations parce qu'il y a un ensemble de prestations qui sont intéressantes et cohérentes. Donc
une station, c'est un pot commun, c'est ça?
Une station, c'est un pot commun avec... une priorité.
À la fois de propositions et de recettes.
Tout à fait. Avec la seule priorité, c'est qu'est-ce qu'attend le client et qu'est-ce qui lui ferait plaisir et qu'est-ce qui peut le motiver à venir.
Les Contamines sur le plan de leur histoire aujourd'hui? C'est tout tourisme quand même.
Maintenant essentiellement, oui, il ne faut pas se faire d'illusions. Il y a quand même 80-90% des gens d'ici qui vivent du tourisme, soit directement, soit indirectement, hein. Que ce soit les artisans, il n'y a pas que les hôteliers. Les gens comme ça qui vivent du tourisme, indirectement, il y a les artisans, il y a même les derniers agriculteurs indirectement qui en vivent, parce que c'est rare qu'ils soient uniquement agriculteurs. Ils sont aussi moniteurs de ski ou quelque chose comme ça dans les remontées mécaniques.
Et comment est-ce que vous trouvez quand même l'évolution du pays, l'architecture, les chalets, cette zone qui a été construite de 5000 lits possibles?
Disons que c'est pas le pire qui a été fait dans les Alpes, loin de là. ça aurait pu être beaucoup mieux, c'est sûr.
Surtout,
le principal problème, c'est que ça a envahi les terrains agricoles. Disons que s'il y avait eu que des immeubles, très peu de résidences secondaires, on aurait peut-être sauvé de l'espace agricole. On a voulu faire les deux, donc il y a à la fois des immeubles et des résidences secondaires. Du coup, il n'y a plus d'espace agricole. Donc, il ne faut pas se faire d'illusions. Déjà, sur les gens qui habitent ici, il y en a plus de la moitié qui ne sont pas originaires de la Savoie. Hein. Enfin, en tout cas, pas de la vallée de Montjoie qui est la vallée de
Montjoie.
Depuis 40 ans, 30 ans, 40 ans. Bon, c'est pas les mêmes proportions qu'à Chamonix, où il y a à peine 10% de véritables chamoniards de souche dans la vallée de Chamonix, mais on en prend le chemin, quoi. C'est beaucoup des gens qui sont venus au départ travailler ici, dans le tourisme, bien sûr. Et puis, de plus en plus, mais il y aura des résidences secondaires qui vont s'installer à l'année, parce qu'ils sont à la retraite. Et ils s'installent à demeure, quoi. Les Anglais, plus...
Et est-ce que les gens du pays, ont encore les moyens de résister à ça?
Non. Enfin, en France, je pense pas. On n'est pas dans les mêmes conditions que l'Autriche, ou des pays comme ça, qui ont eu une autre manière de procéder face au tourisme. Ici, les agriculteurs n'ont pas été du tout aidés. L'agriculture de montagne, elle est condamnée depuis longtemps. Donc, ce qui reste, c'est presque du folklore, malheureusement. Et partant de cela, bon, ben, s'il n'y a plus d'économie agricole montagnarde possible, la seule voie, c'était le tourisme. Tourisme, après, bon, on peut parler de tourisme plus ou moins doux,
ouais.
Mais le tourisme vraiment doux, ça n'existe pas.
On ne s'est pas méfié, quand même. Hein.
C'est pas qu'on ne s'est pas méfié, mais ça a été voulu. La politique agricole française a tout fait pour faire disparaître l'agriculture de montagne.
En fait, c'est pas seulement à depuis cause de Gaulle, ça, déjà. C'est pas seulement à cause de ça que les Anglais rachètent toutes les maisons.
Non, mais ça, c'est une conséquence lointaine.
Oui, mais celui-ci, on n'aurait pas pu résister davantage.
Non, je pense pas, parce que c'était pas la volonté des gens du pays de brader leur terrain. S'ils l'ont fait, c'est parce que la pression foncière est devenue telle qu'ils auraient été obligés de vendre leur terrain pour subsister. Et bon, ceux qui avaient des terrains constructibles, personnellement, j'en ai pas, et ça m'arrange bien.
Donc vous n'êtes pas devant ces quatre conscients.
Je n'ai pas de quatre conscients.
Est-ce que je vais aux Anglais ou pas, c'est
non.
Ça,
hein, mais
c'est
un peu bon, la question aujourd'hui. Je reconnais les gens qui ont des enfants, et les enfants peuvent pas se loger sur les contamines ou les villages environnants. Et s'ils ont la possibilité de vendre à des Anglais qui vont payer trois fois le prix des autres, ils vont leur rendre, c'est sûr.
Quelle est belle, la Savoie, mon pays, je suis en paille, les vallées du Japon, une année, une nouvelle, les montagnes, qu'on peut bien manger, la fondue.
Madame le maire, vous pose aujourd'hui dans les stations de soins d'hiver la question du logement des jeunes ménages, par exemple.
Ça, c'est un vrai, vrai problème. Je voudrais vous dire que ce n'est pas un combat perdu, mais pour autant, on n'a pas à ce jour de perspective très, très favorable. On a une pression foncière très importante qui est due à deux choses. D'une part, on a quand même beaucoup construit et les terrains se raréfient très, très vite. Hein, sur les contamines, on peut dire qu'il reste aujourd'hui... peut-être 5% de surface constructible, pas plus. Non, donc c'est très très peu. Donc la raréfaction fait que les prix augmentent. Et parallèlement à ça, on est très attractif. On a un flux migratoire positif, largement positif. On a chaque année 3, 4, 5 familles qui viennent s'installer. On le voit avec l'effectif de l'école, hein, on a quand même beaucoup de nouvelles familles qui viennent inscrire leurs enfants. Donc ces gens-là, ben, forcément, consomment de la terre, des locations, et on commence à être à saturation. Pour les jeunes
d'ici... D'un côté, ils revitalisent le pays, de l'autre côté, ils l'appauvrissent.
Je pense que dans l'ensemble, ils revitalisent quand même, mais ça veut dire qu'on a une pression foncière de plus en plus forte. Donc c'est vrai que pour nos jeunes, c'est difficile, parce qu'il faut trouver des revenus conséquents pour arriver à acheter et construire.
Si les salaires sont bas.
Hein. Les salaires de saisonniers sont assez bas. Si les familles n'ont pas pris la précaution de conserver du patrimoine pour pouvoir transmettre un terrain, ça devient quasiment impossible.
Hein. Et ces gens-là sont des Landais ?
Pas forcément. On a dans 3 ou 4 familles, on sent pas une pression énorme sur les contaminés. Je veux dire, on a 3 ou 4 familles qui sont...
C'est l'économie parallèle qu'ils peuvent conduire.
Oui,
c'est travailler à la place du savoyard.
Tout à fait. Sur les contaminés, on n'a pas trop cette difficulté. Alors, j'ai du mal à m'expliquer pourquoi. C'est plus les centres... Faut laisser venir. Je crois que la résistance... Moi, j'ai du mal. Je suis un peu européenne dans l'âme, mais j'ai du mal à opérer un ostracisme aussi fort que ça, quoi. Quel différentiel, finalement, entre un citoyen anglais qui veut venir travailler chez nous et un citoyen français de Reims ou de Bordeaux qui a envie de venir faire une saison contamine. Pourquoi pas? Je veux dire, c'est peut-être enrichissant pour tout le monde. C'est peut-être c'est ça l'Europe. Le problème, c'est que ça crée de la pression foncière et que quelquefois, sur certaines communes, on entend dire qu'ils vivent en autarcie et qu'ils se créent leur propre système économique avec leurs moniteurs, leurs skis, leurs guides, leurs restaurants. Bon, ça, effectivement, c'est pas forcément très sain. À nous, peut-être, de leur ouvrir nos portes pour que ça se passe différemment et qu'on apprenne à travailler ensemble. On n'est pas confronté à ça encore sur les contamines, donc on ne sait pas dire exactement comment on s'y prendrait, mais je crois qu'en tout cas, ce n'est pas en fermant la porte et en s'arc-boutant sur ces positions que les choses peuvent s'améliorer. On est européen, on n'est pas franc-savoyard, quoi. Hein, on l'est, mais ça n'empêche pas d'être européen aussi.
Olivier Béguin, est-ce que vous êtes prêt à employer des moniteurs anglais dans votre école de ski français?
Ben, nous, on n'est absolument pas contre le fait d'embaucher des moniteurs étrangers. Ça, c'est la première chose. La seule chose contre laquelle j'aurais envie de m'élever, c'est les économies parallèles. Dans la mesure où tous ces gens sont diplômés, ont un diplôme d'État, qui sont en règle par rapport à l'administration, et qu'ils satisfont à toutes les obligations auxquelles nous, on est soumis, je ne vois pas pourquoi on pourrait pas travailler ensemble.
Et l'économie parallèle se manifeste déjà ici?
Je crois que ça serait une erreur de considérer qu'il n'y a pas d'économie parallèle. Elle se fait sur tout l'arc alpin. Elle se fait aussi bien dans les activités d'été, au niveau des guides d'haute montagne, que des moniteurs de ski.
Donc au-dessus des lois françaises, c'est ça? D'une réglementation française?
Je ne dirais pas que c'est au-dessus des lois, mais c'est un peu en marge quand même, je pense.
Comment est-ce que vous voyez l'évolution de la station sur le plan de son développement, justement?
Personnellement, je pense que l'évolution, elle devrait se faire par le biais de liaisons intermassifs. Moi, j'y suis tout à fait favorable. Dans la mesure où on conserve des zones relativement privilégiées sur le plan de l'écologie, sur le plan de protection de la nature, sur le plan de tout ce qui touche à la protection... Ce qui n'empêche pas d'avoir des développements cohérents et de relier quand même les stations.
Alors vous pensez à une liaison possible, par exemple, dont on parle entre Saint-Gervais et Megève?
Tout à fait, une liaison entre les Contamines et Megève, et ensuite de Megève à Saint-Gervais.
Et là, c'est un espace infini.
Là, le jour où cette liaison est effectuée, bon, on va multiplier nos domaines par 3 ou par 4. Quoi.
Alors cette gouvernance dont on parlait au début de l'entretien, vous pensez qu'elle est en train de mobiliser la majorité quand même des élus et des partenaires à la fois privés et particuliers?
La majorité de l'aménagement. Je ne sais pas, j'ai du mal à évaluer sur les stations de Savoie ou de Savoie par exemple. Mais il y a un mouvement, hein, il y a un mouvement très très important, initié un peu par le conseil régional, la mitrie, des gens comme ça. Il y a des groupes de travail qui se sont créés depuis 3-4 ans sur le sujet. On sent que c'est un mouvement qui commence à s'opérer. Beaucoup de stations réfléchissent à la forme juridique de leur structure touristique, hein. Une SEM, un EPIC, une régie, une association. Alors nous, on a été en association pendant longtemps. On a repris en régie pour des raisons de fonctionnement depuis un an. Mais l'objectif, c'est bien d'aller vers une SEM.
Alors la SEM, c'est la société
d'économie mixte,
voilà.
Dans laquelle on trouverait la commune comme partenaire institutionnel avec le minimum légal, c'est-à-dire 51%, et puis les 49% restants étant aux socioprofessionnels qui, eux, seraient en charge de mettre au point la stratégie de cette entreprise que sont les Contamines, d'élaborer les plans de promotion, les plans d'animation, et de travailler sur la stratégie à 5 ans, quoi.
Tant que l'or blanc tombait à gros flocons, le problème de la gouvernance ne se posait pas.
Ouais, je crois que
chacun tirait ses intérêts vers lui.
Oui, il s'est probablement toujours posé, mais sans qu'on en ait l'acuité n'était pas tout à fait la même sur ce sujet-là. Mais les stations ont toutes, à un moment donné, se sont toutes posées des questions de positionnement ou autre. Probablement pas de manière aussi formelle qu'on le fait aujourd'hui. La stratégie n'est pas posée sur le papier, elle n'est pas validée par tous. Mais comme les entreprises d'ailleurs, c'est une démarche marketing assez nouvelle, anglo-saxonne, et qui est arrivée en France il y a une vingtaine d'années. La notion de produit, de cohérence entre le produit et les attentes du client, c'est des notions qui sont finalement convaincantes en France. Donc les stations, entreprises comme une autre, ont dû s'y faire.
Alors on est à quelques jours du début des vacances scolaires de Noël, vous retenez votre souffle?
Oh, vous savez, on est rodé. Enfin, c'est toujours
le rideau va se lever.
Ouais. La plus grosse tension que l'on a, c'est quand on n'a pas de neige. Et que l'année dernière, par exemple, elle est tombée le premier samedi des vacances de décembre. Elle finit toujours par tomber. Ici, on est bien, on est assez confortable, mais elle tombe quelquefois un peu tard. Quelquefois, on la tourne, là, au mois de novembre, là, début décembre. Après, il pleut ou il y a un coup de redoux, on l'a moins. Et puis, au mois de décembre, à Noël, elle arrive. Donc, c'est ça toujours un peu de tension. Là, cette année, c'est formidable. On a eu beaucoup de froid au mois de novembre. On en a fabriqué et maintenant, elle tombe naturellement. Donc, je dirais que c'est des conditions idéales.
Boulogne, merci d'être avec nous. Vous êtes le maire des Gets en Haute-Savoie et vous êtes au téléphone depuis Lyon. Alors avant de s'entretenir avec vous de la gouvernance dont vous êtes un des adeptes, des nouvelles du ciel, il neigeait aux Contamines, et vous confirmez, il neige aux Gets?
Ben, non seulement il neige, mais je pense que il y a déjà au moins 5 ans qu'on n'a pas fait une ouverture de saison avec autant d'optimisme, puisque on a plus de 90 cm au bas des pistes et 1,50 m au sommet.
Et ça, c'est forcément une bonne nouvelle, et une bonne nouvelle pour tous, surtout.
Ben, c'est évidemment une bonne nouvelle, mais en plus c'est magnifique parce qu'il fait grand soleil, donc c'est vraiment un spectacle de rêve, et je pense que ça fait partie de l'attractivité de nos territoires. C'est cet espace de rêve que nous cherchons à conserver et à protéger aujourd'hui. Oui.
Et quand la neige vous manque, vous savez l'inventer?
Oui, aujourd'hui les techniques sont bien au point.
Et hein, ça pose des problèmes?
Ah, ça peut poser des problèmes, bien sûr. On peut avoir un certain nombre d'inconvénients à fabriquer de la neige, à commencer par la ressource, puisqu'en l'occurrence, fabriquer de la neige, c'est très simple, hein, en théorie, sur le papier, c'est de l'air comprimé et de l'eau. Mais ça suppose d'avoir de l'air comprimé d'un côté en grande quantité et puis de l'eau également en grande quantité.
Et l'eau n'est pas inépuisable.
Et les ressources en eau, en montagne comme ailleurs, ne sont pas inépuisables, absolument. Et donc aujourd'hui, c'est l'apprentissage de la gestion de ces réserves qui nous est demandé, bien sûr.
Alors vous restez avec nous tout au long de cette émission de Vivre sa ville que nous consacrons aujourd'hui à la gouvernance des stations de sport d'hiver. Je prends contact avec Madame Emmanuelle Georges Marcel Poil, qui est ingénieure et chercheure au CEMAGREF à Grenoble. Est-ce que vous êtes là?
Oui, tout à fait.
En duplex depuis Grenoble.
Bonjour.
Eh bien, tout marche, c'est formidable. Alors, Madame Georges Marcel Poil, vous me disiez l'autre jour au téléphone en préparant l'émission, méfions-nous de l'engouement pour la gouvernance. Alors, pourquoi cette méfiance?
Parce que je pense que la gouvernance est née il y a quelques années. Elle est beaucoup mobilisée dans la plupart des discours aujourd'hui, quel que soit l'échelon de décision. Mais qu'en même temps, on peut certainement essayer d'y voir des recettes qu'il faut appliquer partout de la même manière. Et je pense qu'il faut prendre garde à cette idée-là et plutôt la voir comme une grille d'analyse, comme une manière de regarder les stations, leur mode d'organisation pour essayer d'améliorer leur performance mais en fonction de leurs spécificités.
Alors ça n'est pas un kit, la gouvernance?
Non, surtout, pas pour moi en tous les cas.
Vous diriez que c'est un projet d'aménagement territorial, enfin du territoire, et qui ne peut pas s'appliquer de la même façon à toutes les stations?
Non, je pense que c'est effectivement réfléchir à la meilleure organisation d'une station pour une performance la plus adéquate en fonction du contexte international. Ceci dit, il y a toute une série de facteurs liés à l'histoire, aux conditions topographiques et climatiques dans lesquelles se déploient les stations qui jouent, qui font que l'organisation d'une station lambda est forcément différente de sa voisine, même s'il y a un certain nombre de fondamentaux qu'il faut prendre en compte, notamment la place de ce qu'on appelle l'autorité organisatrice ou notamment le rôle ou le degré d'intervention des acteurs économiques, professionnels.
Qu'est-ce qui fait la différence entre les stations de sport d'hiver?
Sur le plan de la gouvernance, je pense que c'est la volonté politique et l'existence d'un projet collectif où on perçoit la station comme un bien commun, qu'on a envie d'améliorer, qu'on a envie de faire vivre, de renouveler, de conserver, et où finalement toutes les sphères de parties prenantes de la station sont autour de la table et réfléchissent ensemble, ce qui n'est pas toujours le cas.
D'accord. Alors une station de sport d'hiver, c'est à la fois une ville, mais c'est une entreprise, c'est ça?
Oui, je pense qu'on l'a surtout vu, notamment selon les échelons politiques, comme une entreprise. Et je pense que ce n'est pas qu'une entreprise. C'est clair qu'il y a un côté performance économique, qui est le but final d'une station, c'est faire de la rentabilité, mais c'est aussi un lieu de vie pour une population locale, pour les gens qui travaillent.
On l'a un peu oublié.
Oui, et je pense qu'on le redécouvre. Alors on le redécouvre beaucoup sur les stations de moyenne montagne parce qu'elles ont un certain nombre de problèmes liés notamment aux problèmes climatiques, mais je pense qu'on va le redécouvrir très rapidement, y compris pour les stations d'altitude, où on essaye d'avoir une vie à l'année autrement que l'hiver et l'été, et puis d'avoir les intersaisons les plus longues possibles.
Alors vous diriez qu'il y a une vie avant et après les soirs d'hiver?
Oui, je pense qu'il faudrait qu'il y en ait une. Certainement que les modalités sont à construire et à inventer dans certains cas. Et peut-être qu'il faut faire de la prospective, mais de la vraie prospective, pas de la reconduction de modèles de développement qu'on a depuis les années 60.
Alors, faites-nous comprendre les choses. En quoi la gouvernance peut-elle aider justement à l'amélioration des conditions de vie des gens qui habitent la montagne?
Parce que je pense que mettre autour de la table, notamment autre que l'autorité organisatrice, c'est-à-dire le maire et son conseil municipal, et puis des professionnels du tourisme, mais y associer la sphère civile, donc la population locale, c'est prendre en compte leurs demandes, leurs conditions de vision de la station. Et donc, c'est essayer de réfléchir ensemble à ce que peut être leur territoire demain, avec le tourisme, mais pas seulement avec le tourisme.
Et ça peut suffire?
Les mettre autour de la table, non. Parce que c'est bien d'entendre les avis des uns et des autres. Après, il faut formaliser ça dans un projet et puis il faut arriver à avoir un projet de gouvernance. Alors, ce qui va avec les questions des structures juridiques, mais pas seulement. Qu'est-ce qu'on fait? Vers quelle orientation on va? Est-ce qu'on privilégie le tourisme? Est-ce que on a des problèmes liés, par exemple, à une pression d'urbanisation? Comment on fait? Donc, c'est toutes ces questions-là environnementales, beaucoup plus larges, de qualité de vie qu'il faut réfléchir et surtout formaliser.
Alors, vous restez avec nous, mais je me tourne là vers Lyon et vers Alain Boulogne. Je le disais, vous êtes le maire des G, et nous sommes en Haute-Savoie comme dans les Contamines. Et vous êtes aussi, alors c'est une fonction récente, chargée de mission montagne, avec un M majuscule, un M d'altitude, au bureau du tourisme, au conseil régional Rhône-Alpes. Alors, monsieur Boulogne, vous êtes-vous un adepte de la gouvernance ?
Ah bah oui, ça fait déjà un moment que ce sujet nous tracasse, puisqu'en fait on se rend bien compte qu'une station, c'est une espèce d'objet très mal identifié qui n'a aucune existence juridique. On emploie ce mot, est employé à toutes les sauces, ce mot station, mais en fait c'est le cumul de plusieurs structures juridiques radicalement différentes. Il y a une structure de mairie, une structure de société anonyme ou de SEM pour les remontées mécaniques, des commerçants qui sont des individuels, une école de ski qui est un individuel, etc. Et en fait, une station, c'est un amalgame de structures juridiques qui n'ont aucun rapport les unes avec les autres.
Et le lieu de rencontre, ce sont les pentes ?
Non. Alors, justement, et c'est bien tout l'intérêt de ce sujet, de ce dossier de la gouvernance, c'est qu'on essaye, avec Emmanuel Marcel Poil et Françoise Gerbeau, d'essayer de dire il faut absolument un lieu de débat. Un lieu de débat, un lieu où justement on va pouvoir évoquer tout ce qui concerne la chose publique, la res publica qui concerne le village, qui concerne la station.
Et ce lieu, vous l'avez trouvé ?
et disons que aujourd'hui, la question est posée. Et donc à chaque station, puisqu'on sait que chaque station est vraiment un cas particulier, à chaque station de poser son lieu de débat.
Et le pilote de la gouvernance aussi, vous l'avez déterminé, là aussi c'est compliqué. Hein.
Non, le pilote n'est pas compliqué à trouver, puisque de par la loi Montagne de 1985, c'est effectivement le maire et son conseil municipal qui a l'autorité pour ça. Mais avoir, alors c'est là où ça devient plus subtil, c'est qu'avoir l'autorité de faire et de monter un tour de table, ça ne veut pas dire d'imposer les choses. Et c'est ça qui est difficile, c'est toute la subtilité de la démocratie qui est difficile à faire comprendre aujourd'hui, c'est qu'on a des intérêts qui sont parfois contradictoires à l'intérieur même d'une station. Le maire et son conseil sont là pour arbitrer et in fine prendre une décision, mais doivent, avant de prendre une décision, écouter toutes les parties prenantes, y compris la sphère sociale qui est sous-représentée, et encore plus sous-représentée, l'intérêt et l'envie des clients.
Alors, Madame Emmanuel Marcel Poil, pourquoi est-ce que la question de la gouvernance est devenue une nécessité dans, justement, la question de l'aménagement de ces stations, je dis le mot de station de sport d'hiver? Pourquoi c'est sorti tout ça ?
Alors, d'abord, je pense que la gouvernance, si on l'entend comme vient de le dire Alain Boulogne, l'articulation d'intérêts privés et publics entre différents types d'acteurs pour définir un projet, on a certainement eu des démarches de gouvernance sans même les appeler gouvernance depuis très longtemps.
On en faisait sans le savoir.
Exactement. Je pense qu'il y a eu un certain nombre d'expérimentations avant l'heure dans certaines stations qui ont connu des problèmes d'organisation et de performance de leur développement touristique, qui donc se sont mis à réfléchir en mettant autour de la table effectivement des acteurs professionnels, des élus et puis éventuellement des gens issus de la sphère civile. Alors, cette question d'articulation du privé et du public, elle a toujours existé dans le mode de développement des stations. Il y a toujours eu la mobilisation de ces types d'acteurs. Je pense qu'aujourd'hui, il y a la reconnaissance par la loi Montagne de la place centrale de l'autorité organisatrice. Et puis, il y a un phénomène important qui est la question de la délégation de cette autorité organisatrice à un certain nombre d'autorités, d'opérateurs privés, pour mener à bien certaines missions. Alors, on pense bien sûr aux remontées mécaniques, mais pas seulement. Et du coup, il y a forcément contractualisation et formalisation de relations entre privé et public. Et ça, c'est une forme de définition de la gouvernance.
Et là, il fallait faire connaissance, alors.
Tout à fait.
Mieux se connaître.
Oui, et puis surtout, je pense que la deuxième dimension très importante qui est associée à la gouvernance, c'est l'idée qu'il y a des choses qui sont formalisées, connues, mis sur la table, et puis il y a tout le versant informel, tacite, non dit, et que ce sont bien les deux qu'il faut prendre en charge et mobiliser pour comprendre comment se passe l'organisation d'une station, et notamment entre une autorité organisatrice et une remontée mécanique. C'est certes une relation tout à fait formalisée et couchée sur le papier, mais que derrière, il y a de la négociation, il y a des relations interpersonnelles, il y a des stratégies qui relèvent aussi de l'informel. Et ce sont ces deux dimensions qui sont importantes dans la gouvernance.
Et comment est-ce que vous pouvez, vous, chercheurs, aider les élus et les partenaires privés justement à mettre en route cette gouvernance? Vous lancez des études, comment ça se passe?
Oui, alors on a, Alain Boulogne en a parlé, un certain nombre de travaux qu'on a engagés sur la gouvernance dans les stations, qui sont des travaux financés par l'Institut La Montagne à Chambéry et qui associent plusieurs équipes, notamment donc Françoise Gerbeau à Grenoble et puis Philippe Bourdeau aussi à Grenoble.
Ils sont de quelle formation?
Politologue et géographe, et en ce qui me concerne, économiste. Et donc, notre regard, c'est que finalement, je dirais qu'il y a deux grands types de situations, sans être dichotomique, mais quand même, il y a les stations où il y a eu des problèmes d'organisation, et où là, il y a une vraie demande, qui n'est pas toujours formalisée, mais qui est quand même là, l'attente, de réfléchir à une meilleure organisation. Donc dans ce cadre-là, notre rapport, il est autant sur un diagnostic qui est porté à connaissance des acteurs, et puis ensuite d'être éventuellement associé à une démarche de réflexion sur une meilleure gouvernance.
Et les stations qui vous appellent, qui font appel à vous, sont souvent les stations qui connaissent des difficultés.
Mais c'est plus, j'allais dire, entre guillemets, plus facile, parce que quand vous avez un problème d'organisation, vous cherchez à le résoudre. Là où ça devient plus difficile, c'est l'autre catégorie, des stations où globalement les choses se passent quand même bien, parce qu'il y a des modes d'organisation qui sont ancrées dans l'histoire, où les gens y mettent du leur.
Bien pour certains.
Tout à fait. Mmh. Et où là, finalement, il n'y a pas forcément un intérêt, j'allais dire, collectif à réfléchir, parce que réfléchir aussi en termes de gouvernance, c'est mettre le doigt sur un certain nombre de choses qui ont ses limites en termes d'organisation, en termes de relations, en termes de
stratégie.
Ça
fait mal.
Ça fait très mal.
C'est se reconsidérer, c'est ça?
Tout à fait. Mmh.
Ouais. Alors, donc, vous faites une étude, je crois, sur les problèmes du foncier. C'est vrai qu'à vivre sa ville, c'est une de nos priorités, en tout cas, je dirais, un des sujets qu'on aime bien aborder. Mmh.
Alors, on a débuté au Sémagref une étude pour le compte du ministère du Tourisme, là, tout à fait récemment, donc je n'ai pas encore de résultats objectifs à vous livrer, mais une étude précisément sur le marché du foncier dans les stations de montagne, et en particulier sur les stations qui sont confrontées aux doubles enjeux, d'un côté touristique et de l'autre de périurbanisation, donc dans des contextes assez proches de grandes agglomérations ou en tous les cas de leur influence. Et la question derrière, c'est finalement, est-ce qu'on peut continuer le développement touristique de manière évidente, où on n'est pas soumis à un certain nombre de mécanismes liés à la périurbanisation, notamment la perte de lits marchands et le transfert de résidences dites secondaires en résidences permanentes sous l'effet de la pression foncière.
Et on peut ?
On peut.
On peut continuer ? Ce développement touristique.
Je dirais qu'il y a un certain nombre de maires issus notamment, enfin, localisés autour de l'agglomération de Grenoble-Ouest, qui se posent réellement la question de savoir s'ils ont les moyens de, je dirais, de maintenir le développement touristique, ou en tous les cas, qui ont comme alternative de réfléchir en termes de projet. Est-ce qu'il ne faut pas que je devienne éventuellement une zone résidentielle au niveau, entre guillemets, de revenus pour les nouvelles populations, ou est-ce que j'arrive à maintenir...
Les nouvelles populations, c'est la clientèle russe et anglaise qui... C'est ça?
Non, là, je parlais plus des nouveaux résidents,
des résidents
qui
à l'année.
Des villes et qui ont des pouvoirs d'achat souvent assez élevés.
Le plus souvent, vous, ce que vous mesurez, ce que vous vérifiez, c'est une tension entre... d'abord une pression immobilière très forte, c'est ça?
Oui.
Assez folle?
Oui, tout à fait.
Et une tension énorme quand même entre les jeunes ménages, les locaux, on va les appeler comme ça, et, les, et les résidents à l'année ou éphémères.
Oui, il y a très clairement dans la plupart des stations...
Et ça se joue un peu partout quand même?
Oui. Je pense qu'il y a ce que j'ai dit sur le marché foncier lié à la périurbanisation, c'est clair que ça peut concerner une certaine catégorie de stations liées aux agglomérations, à des agglomérations voisines, mais c'est clair que la tension entre les types de résidences est un phénomène qu'on trouve dans tout type de station, avec des problèmes, effectivement, de logement pour la population locale, pour les saisonniers, ça c'est quelque chose qu'on sait un peu plus ces derniers temps.
Ils le font savoir, ils ont raison.
Oui, mais pour la population locale, c'est aussi un problème réel, qui, je dirais, débouche sur des migrations pendulaires de fond de vallée jusqu'aux stations.
Alors, qu'est-ce qui est le plus cher ? C'est le fond de la vallée ou c'est les pentes d'altitude ?
C'est plutôt les pentes d'altitude, encore.
C'est là où il ne faut pas acheter.
Ben, disons que c'est là où certaines personnes ne peuvent pas acheter.
On peut attendre que ça baisse.
Oui, je pense.
Alain Boulogne, combien vaut le mètre carré au G ?
Écoutez, aujourd'hui, on est rendu sur les rares terrains disponibles entre 300 et 350 euros le mètre carré. Mais je crois que au-delà de ce qu'expliquait Emmanuel sur la pression foncière d'une agglomération grenobloise, je crois qu'il faut qu'on reprenne le sujet qui était tout à l'heure de Madame le maire de des Contentamines. C'est qu'on on assiste, tout en étant parfaitement pro-européen, on assiste quand même à un effet pervers de l'ouverture des frontières européennes, à savoir que on a notamment nos amis anglais et néerlandais.
Faut-il toujours les appeler nos amis anglais ?
Oui, absolument. Mais oui, parce que c'est un effet pervers. Au global, ils restent nos amis. Mais nous avons un effet pervers sur lequel ils sont pas forcément pour grand-chose. Il faut savoir que la notion de propriété privée en Angleterre, c'est quelque chose qui n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est la reine qui est propriétaire et vous signez avec la reine un bail emphytéotique. Et quand ils arrivent avec...
Je ne comprends pas ce que vous dites. On n'est pas propriétaire de ces maisons en Angleterre ?
En Angleterre, les Anglais ne sont pas propriétaires de leurs maisons. Et quand ils arrivent en France avec une livre sterling forte, et qu'on leur dit, mais vous pouvez acquérir un lopin de terre sur lequel vous êtes, c'est un droit inaliénable, on les fait déjà rêver terriblement. Quand en plus c'est sur un territoire dit carte postale, comme une station de montagne ou un bord de mer... Mais à ce moment-là, on leur donne un rêve qui est complètement fou. Et comme ils ont un fort pouvoir d'achat aujourd'hui, en ayant ouvert nos frontières européennes, nous, en France, nous n'avons pas les outils pour lutter contre une pression immobilière qui n'est pas près de s'arrêter. C'est gravissime dans la mesure où, si vous voulez, on va surcharger nos cartes postales, atteindre des points de non-retour de capacité de charge de nos territoires. À un moment donné, on n'aura plus assez d'eau, on ne pourra plus traiter les eaux usées, on n'aura plus de paysage. Alors, où va-t-on ? C'est ça l'angoisse du jour aujourd'hui.
Monsieur le maire des G, les Anglais sont-ils, puisqu'on parle d'eux, sont-ils dans la légalité ou en marge des lois du travail ou tout simplement plus compétitifs que les Français quand ils pratiquent une économie parallèle en Savoie ?
C'est le même sujet, c'est-à-dire qu'ils sont très forts, ils ont été capables d'aller très très vite et d'être de très bons commerçants là où nous on pensait qu'on était sur une rente de situation, tout simplement. Et qu'aujourd'hui, la France, dans le concert européen, n'a pas été capable de comprendre que nous avons le plus beau pays du monde, qui est extrêmement attractif, et qu'en fonction de ça, nous devons avoir un système de protection du territoire qui fait que ce sont les maires et les élus qui donnent le rythme du développement et non pas l'argent européen.
Alors comment est-ce que vous-même avez réussi quand même, non pas à coincer, mais on va dire à arrêter la prolifération des Anglais dans votre station ?
Non, je cherche pas. Moi, comme me disait Madame le maire des Contamines, moi, j'ai pas aucun problème de nationalité.
On est
simplement,
d'accord. Simplement,
oui, mais non,
mais
c'est
quand
important.
Même, hein. Mais quand même.
Après, on se fait traiter de raciste. Non, alors que c'est pas ça le
pas
propos.
Moi.
C'est pas ça le propos. Le propos.
Comment pouvez-vous vous protéger ?
Alors, c'est simplement de mettre en corrélation nos ressources naturelles avec la délivrance des permis de construire. On a révisé notre PLU, on a mis 3 ans et demi pour le faire, ça a été des bagarres énormes parce que, évidemment, les propriétaires fonciers ne le voyaient pas de cet œil-là au départ. Il a fallu énormément parler, énormément expliquer, arriver à faire comprendre que si, en fonction de nos réserves d'eau, en fonction de notre paysage, en fonction de notre station d'épuration, nous ne pouvons délivrer que 10, je dis n'importe quel chiffre, hein, 10, 15 ou 20 permis par an, eh bien, on délivrera que 10, 15 ou 20 permis par an pour être en corrélation avec ce que notre territoire peut supporter.
Et ça, vous l'appliquez ?
Et ça, aujourd'hui, on l'applique.
Mais dites-moi, il faut être un maire particulièrement courageux pour appliquer ça ?
Aujourd'hui, oui, parce que malheureusement, et là je vais dire les choses très crûment, les services de la DDE en particulier, les services instructeurs des permis de construire aujourd'hui, ne sont plus préoccupés que par une seule chose dans le cadre de la décentralisation, c'est savoir à quelle sauce ils vont être mangés. Et ils ne sont plus du tout préoccupés par ce qui se passe sur les territoires.
Qui peut les manger ? À quelle sauce ?
Ben c'est la fameuse décentralisation. Ils ne savent plus du tout comment, à quoi ils vont être accrochés dans le futur. Et c'est leur seule préoccupation aujourd'hui.
Alors, je vous pose la question à tous les deux. Est-ce que la gouvernance peut être un moyen tout à fait respectable de résister à cette pression immobilière? Et comment résister à la pression tout en restant ouvert au monde? C'est un peu la difficulté dans laquelle vous êtes, là.
Non. C'est d'être capable de faire la distinction entre un lit chaud et un lit froid. Un lit chaud, c'est un lit qui va tourner pendant les 17 semaines de la saison d'hiver et les 10 semaines de la saison d'été. Si on est capable de garder des lits chauds avec des touristes qui viennent semaine après semaine, là, on sauvegarde notre économie.
Et qu'est-ce qui empêche les lits chauds ?
Eh bien, c'est ce que évoquait Emmanuel tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a des lits qui sont achetés par ce qu'on appelle des résidences secondaires qui viennent miter le paysage et qui n'apportent rien à l'économie locale.
Et qui sont là 3 semaines par an, c'est ça ?
Et qui sont là 3 semaines par an, dans le pire des cas.
Alors, Emmanuel, Marcel Poil, alors...
Par rapport à votre question sur la gouvernance, est-ce que c'est un moyen de résoudre ça? Je pense que de mettre un diagnostic objectivé de la structure d'un hébergement et de ce que vient de dire Alain Boulogne sur la part lit chaud, lit froid et de son évolution dynamique, et là éventuellement placer le rôle et l'intervention des opérateurs étrangers, qu'ils soient anglais ou néerlandais. Et de ce point de vue, je pense qu'ils ont une vertu, c'est peut-être de secouer le cocotier parce que certains sont sur effectivement une rente de situation, eh bien c'est peut-être ça, de mettre ça sur la table et d'interpeller un certain nombre d'acteurs, notamment professionnels, qui, ayant leur propre logique individuelle, ne voient peut-être pas les effets collectifs des grandes évolutions, et au moins de porter ça à connaissance pour après l'intégrer dans une réflexion beaucoup plus collective. C'est aussi ça, la vertu de la gouvernance.
Est-ce que vous faites école, tous les deux? Est-ce que vous avez ouvert une école de la gouvernance à côté de l'Office du tourisme ou dans l'Office du tourisme?
Alain, je vous laisse répondre.
Alain, ce qu'on peut dire, c'est qu'avec l'université, le CNRS et le CEMAGREF, et donc la région Rhône-Alpes, on a cherché à faire en sorte que ça soit un dossier assez exemplaire, puisqu'il y a à la fois un côté recherche et à la fois un côté immédiatement applicable pour chaque station qui accepte de se remettre véritablement en cause dans son schéma de développement. Et ce que nous apportons, c'est simplement quelques pistes, quelques amorces, quelques encouragements à la réflexion.
Et vous avez 10 stations volontaires
avec
vous ?
Aujourd'hui, on a une dizaine de stations qui nous servent un petit peu de stations pilotes, mais d'après les échos qu'on peut avoir sur les 160 stations de Rhône-Alpes aujourd'hui, toutes les stations se sont au moins posées la question, y compris les plus grandes, parce que ce problème aujourd'hui devient crucial. On l'a dit tout à l'heure, il ne peut plus y avoir de progression du chiffre d'affaires par l'accroissement des domaines skiables, puisque aujourd'hui, et l'accroissement de la clientèle, puisqu'aujourd'hui on sait qu'on est sur un score de clientèle qui est à peu près stable et qu'on ne pourra plus augmenter.
Donc c'est
pas le nombre qui va faire le chiffre, c'est uniquement la qualité. Et pour augmenter la qualité, il faut absolument que toutes les parties composantes d'une station se parlent.
Et puis, pour ajouter, c'est, je crois qu'il y avait, comme je l'ai dit tout à l'heure, des stations qui faisaient de la gouvernance sans en le savoir. Alors, c'est vrai qu'il y a eu l'organisation des colloques qu'a assuré la FACIM, donc la Fondation pour l'Action Culturelle Internationale en Montagne, qui, je pense, en provoquant des débats sur la gouvernance, a aussi provoqué le dialogue entre les stations, qui parfois sont... comme on le dit communément, le nez dans le guidon. Et il y a aussi des échanges d'expériences. On regarde ce qui se fait chez les voisins, on essaye de prendre des idées et ensuite de les adapter, de se les approprier pour, comme dit Alain, en fonction des questions d'organisation très ciblées, trouver une meilleure organisation.
Bon, merci et belle saison à tous les deux. Vous confirmez 80 cm de neige? C'est vrai.
Oui, je les vois de ma fenêtre.
D'accord. Merci à vous deux de votre participation. On se retrouve toute la semaine sur notre site franceculture.com. Vivre sa ville.
Dimanche prochain, à 7h05 du matin, Vivre sa ville visite et revisite le Paris de Proust. Paris recomposé, Paris modifié, enchevêtré, à lire et à visiter. Vivre sa ville, coordination Fanny Richer, prise de soins et mixage Claude Niort, collaboration France Bleu Pays de Savoie, réalisation Marie-Laure Ciboulet, une émission de Sylvie Andreu. Excellente journée à toutes et à tous, et à dimanche prochain. Mais tout à l'heure, à partir de 16h et jusqu'à 20h, en public du bateau phare, superbe péniche culturelle, amarré quai de la gare à Paris dans le 13e arrondissement, France Culture vous invite à la lecture des Mille et une nuits. Choix de texte proposé par André Miquel et en sa présence, avec Mohamed Rouhabi, Judith Mag et Julie Denis. L'entrée est libre dans la limite des places disponibles. Le bateau phare, aujourd'hui de 16h à 20h.
Vous écoutez France Culture. Foi et tradition des chrétiens orientaux, une émission animée par Jean-Pierre Roquéry.
J'ai le privilège d'accueillir ce matin, à Foi et tradition des chrétiens orientaux, Mgr Philippe Brizard, directeur général de l'œuvre d'Orient. Œuvre d'Orient qui célébrera en mai 2006 son 150e anniversaire. On vient voulu se joindre à nous, Mgr Claude Brossolette, vicaire général de l'ordinariat pour les églises orientales, Mgr Nicolas Antiba, exarque grec melkite catholique en France, et Mgr Michel Chafik, recteur de la mission copte catholique en France. Mgr Brizard, toute l'action de l'œuvre d'Orient depuis 150 ans pourrait peut-être être résumée dans votre formule « Les chrétiens de France au service des chrétiens d'Orient ».
Tout à fait, et elle est née par hasard, peut-être pas tout à fait, à une époque où la France reprenait place dans le concert des nations de l'époque, et depuis lors a suivi les grandes évolutions, c'est-à-dire la fin de l'Empire ottoman, l'avènement des nationalismes, le développement des mouvements comme le basisme, le mouvement base, qui a hélas fini en dictature variée, et l'avènement aussi de l'État d'Israël, la fin des mandats. Donc par conséquent, il y a là une richesse historique extraordinaire, et à travers tous ces événements, la continuité des églises d'Orient, et qui témoignent d'abord de leur tradition et de leur foi, et d'autre part qui ont toujours subi les coups de ceux qui les trouvaient trop inféodés avec l'Occident, ou en tous les cas on connaisse une hémorragie qui n'est pas de ces dernières années, hélas.
Hélas. Alors, Mgr Brossolette, la plupart des églises orientales connaissent justement cette hémorragie, une diaspora, en France notamment, certaines depuis fort longtemps, d'autres tout récemment. Leurs échanges avec l'Église de France sont très importants.
Alors, il faut souhaiter qu'ils soient de plus en plus importants, parce que il faut constater que les catholiques français, qui sont des catholiques latins, occidentaux, perçoivent mal l'existence de ces chrétiens catholiques orientaux. Pour eux, dès qu'on parle de l'Orient, ce sont des orthodoxes. Et de découvrir qu'il y a des catholiques qui sont des grandes églises d'Orient, rattachées au grand patriarcat Alexandrie, Antioche, Constantinople, Jérusalem, c'est pour eux tout à fait étonnant. Alors, je passe mon temps à corriger, si je puis dire, les idées fausses qu'ils ont et essayer de faire découvrir le signe important pour que l'Église soit vraiment catholique, que les catholiques orientaux soient, aient bien leur place et toute leur place dans l'Église que nous formons.
Alors, en somme, on peut dire que l'ordinariat et l'œuvre d'Orient se complètent.
Alors, ils se complètent, effectivement. Ils n'ont pas tout à fait la même, le même rôle. Mais, si vous voulez, il y a un rôle de pastoral, juridique, qui est exercé par l'ordinariat. Il y a un rôle financier, mais aussi de solidarité, accompli par l'œuvre d'Orient. Et je ne vois pas qu'on puisse dissocier les deux.
Monseigneur Nicolas, l'œuvre d'Orient intervient auprès des chrétiens d'Orient dans trois domaines qui sont instruire, soigner et évangéliser. Alors, quelle aide reçoivent par exemple les Grecs melkites catholiques?
Simplement pour donner un petit exemple, il faut dire que le cardinal Avigiori, qui était fondateur enfin, de cette œuvre d'Orient, avait voulu, dès le début, enfin, avec cette fondation des Pères Blancs, eh bien, qu'il soit responsable d'une certaine façon de l'éducation spirituelle et théologique, enfin, de notre clergé grec melkite en Orient. Eh bien, ils sont restés jusqu'à presque